Hier, je m'interrogeais sur l'amour d'Alceste, dont je disais à quel point il m'inspirait de la tendresse. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'autre face de cet amour, qui est quand même un amour sombre et étrange, et par la même occasion, revenir sur Célimène. Je désire à quel point, au bout du compte, les choses chutait parce que Célimène avait peur finalement de s'engager avec Alceste. Ils s'aiment l'un et l'autre, mais en définitive, ça rompt parce que Célimène a peur de rester seule avec cet homme. Mais il faut voir que cette peur de Célimène n'est que le symétrique et même sans doute le symétrique amoindri de la peur fondamentale qui s'exprime chez Alceste et qui apparaît dès la première scène. Ou une des premières scènes, quand Alceste discute avec Célimène de son amour et il lui dit qu'il est un peu chagriné de ce qu'elle soit aimable avec tout le monde et elle lui répond que oui, mais elle lui a dit, elle lui, qu'elle l'aimait. Donc il n'a pas de souci à se faire et lui répond que peut-être qu'elle a dit ça à tout le monde, qu'est-ce qu'il lui prouve qu'elle l'aime lui et non pas un autre. Et ajoute-t-il, après tout, je suis comme les autres. Je n'ai rien d'exceptionnel. Pourquoi est-ce que c'est moi que vous aimeriez? Et ce qu'il montre par cette réplique, c'est que, fondamentalement, s'il n'a pas confiance en Célimène, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Il doute de sa capacité à être aimé par Célimène. Et ce doute qui le ronge explique la façon dont il aime Célimène, qui est une façon tout de même très singulière. Une façon que je comprends parfaitement et j'en suis bien mari, mais qui au bout du compte est quand même très, très misogyne. Et il l'explique au début de l'acte 4, où il va jusqu'au bout de sa pensée. Ah, rien n'est comparable à mon amour extrême. Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui. Je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que de mon cœur l'éclatant sacrifice vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice, et que j'eusse la joie et la gloire, en ce jour, de vous voir tenir tout des mains de mon amour. Le peu de confiance qu'il a en Célimène et en lui-même, le pousse à vouloir, et Molière a bien rendu la chose, à vouloir, peut-être inconsciemment, qu'elle ne soit rien pour tout lui devoir à lui. Il y a évidemment derrière ce discours-là une connotation sexuelle encore plus qu'érotique. Il veut qu'elle lui doive tout. Il veut sans doute qu'elle lui doive tout sa jouissance sexuelle et sa vie et son existence. Il veut qu'elle lui doive tout, de même que lui considère qu'elle est tout pour lui. Mais cet amour-là est un amour donc qui se construit forcément, qui semble nécessiter la destruction ou la perte de pouvoir de l'autre ou la perte d'autonomie. Il veut qu'elle lui doive tout, ce qui signifie que son amour va de pair avec son absence totale d'autonomie à elle. Et c'est comme ça que s'exprime son amour, parce que lui-même doute trop fondamentalement de lui-même. Et cet amour-là, à cette déclaration d'amour, elle lui répond, d'ailleurs par anticipation, parce que c'est juste la tirade qui précède, « Non ». Vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. L'amour qui est tout à fait réel, hein, il ne faut pas en douter un seul instant, l'amour qui est tout à fait réel d'Alceste pour Célimène exige d'une certaine façon la soumission de Célimène. Il n'est pas compatible avec sa liberté, liberté qui n'a rien de libertine, qui est tout simplement sa liberté de s'exprimer, d'exprimer sa grâce, son charme, son autonomie, son indépendance. Et ça, non, Alceste n'en veut pas, parce que comme lui considère qu'il doit tout à Célimène, il veut que Célimène lui doive tout. Or ce qu'il dit, lui, lorsqu'il pense cela, c'est fondamentalement sa crainte. Il a besoin d'être rassuré par Célimène, et ce besoin de rassurance, il se traduit en définitive par cette vision extrêmement misogyne de « vous devez tout me devoir et donc vous devez n'avoir aucune liberté ». Et c'est ça la seule perspective qu'il offre en définitive à Célimène. Tout quitter pour lui, abandonner le monde entier pour lui. Il demande à Célimène de sacrifier le monde à l'amour qui est réel encore une fois aussi, qu'elle lui porte. Il lui demande de trancher. C'est en fait une conception d'amour qui est un peu proche de celle de Féral dans La Condition humaine que je lisais également hier avec ma fille. Quand Féral et Gisors discutent de la condition humaine et des femmes, Féral a cette vision de la femme qui doit être dominée. C'est une conception extrêmement misogyne. Je crains clairement de la voir également un peu moi-même. Et c'est là également que se noue le conflit entre Célimène et Alceste. Alceste aime Célimène, il n'y a aucun doute à avoir. Célimène, très probablement, aime Alceste. Mais l'amour d'Alceste est totalement possessif. L'amour d'Alceste oblige Célimène à choisir entre lui et le reste. Et ça, elle ne le supporte pas parce que, comme elle le nie, il ne l'aime point comme il faut que l'on aime. Et sans doute s'en rend-il compte. Il est malheureux, Alceste. Mais au bout du compte, cet amour est impossible. Il aime Célimène, mais l'expression de son amour est bizarre. Il pourrait sans doute au bout du compte l'un et l'autre se rejoindre, mais il faudrait qu'Alceste lui-même ouvre son esprit, accepte autre chose. Mais il ne le fait pas. Et là est aussi son drame. Bonne journée.